Radio Vatican, France et Afrique.
Bienvenue à mes auditeurs et merci d'avoir choisi Radio Vatican pour vous informer. Outre les différentes audiences accordées par le pape dans la matinée de lundi, l'actualité de l'Église nous menera au Bénin, en République démocratique du Congo, après avoir écouté Monseigneur Antoine Kambanda, archevêque de Kigali au Rwanda, qui réagira à sa nomination comme cardinal par le pape. En ce qui est de l'actualité sociopolitique africaine, nous verrons ce qui se passe en Côte d'Ivoire, au Nigeria, en Libye. Bienvenue encore une fois à toutes et à tous et bonne condition d'écoute de nos programmes que nous émettons depuis la cité du Vatican.
Radio Vatican, France et Afrique, Jean-Pierre Bojoko.
Le pape a reçu tour à tour lundi en audience privée le cardinal Giuseppe Petrocchi, président de la commission d'études sur les diaconats féminins avec le secrétaire de cette même commission, avant de recevoir Monseigneur Luigi Misto, président de la commission pontificale pour les activités du secteur de la santé des personnes morales publiques de l'Église. L'archevêque de Kigali au Rwanda, Monseigneur Antoine Kambanda, fait partie des 13 cardinaux que le pape François va créer lors du consistoire ordinaire prévu le 28 novembre prochain. Il commence dans cet entretien qu'il nous a accordé par dire comment il a pris cette nomination et quelle a été sa réaction.
Ça a été une grande surprise pour moi parce que je ne m'y attendais pas. J'étais dans mes activités, la vie ordinaire. Jusqu'à ce que quelqu'un m'a téléphoné, je n'y croyais pas. Et quand j'ai vu les nouvelles de l'annonce à l'Angelus du pape, ça, c'est une surprise pour moi. Et je remercie le Seigneur. C'est le Seigneur qui est l'auteur de l'histoire, l'histoire en général ou l'histoire personnelle. Je n'avais jamais rêvé d'être cardinal. Et c'est le Seigneur qui a voulu. Comme l'évangile d'aujourd'hui dit, aimer le Seigneur avec tout ton cœur et toute ton intelligence. J'aime le Seigneur et j'ai consacré ma vie pour travailler pour le Seigneur. Et être cardinal, ça me donne l'opportunité de travailler beaucoup plus. Et je remercie beaucoup le Saint-Père qui m'a confié cette charge de cardinal. J'aime l'Église. J'aime travailler pour l'Église et ça me donnait l'occasion de travailler beaucoup plus pour l'Église.
Voilà l'occasion de travailler plus pour l'Église et pour l'Église dans un pays comme le vôtre, le Rwanda, qui a connu une période difficile de génocide et maintenant, ce pays a encore besoin de panser les plaies et de vivre la réconciliation. Quel défi sentez-vous comme futur cardinal? Et le pape venait aussi même de publier sa dernière encyclique qui parle de Fratelli Tutti et d'essayer de vivre cette réalité dans votre nouvelle responsabilité comme cardinal.
Nous venons de faire un cheminement de 25 ans, maintenant 26 ans après le génocide, et nous avons travaillé beaucoup pour la réconciliation. Ça faisait très mal de voir une communauté catholique et chrétienne déchirée, s'entretuer jusqu'au génocide. Et après, nous remercions le Seigneur le cheminement que nous avons fait. Maintenant, quand même, il y a un certain niveau de réconciliation et de l'unité. Et l'encyclique du pape, Tutti Fratelli, ça a été bien accueilli au Rwanda et nous la méditons, nous l'approfondissons. Ça va renforcer beaucoup et faciliter notre travail de pastoral et de la réconciliation. Alors, c'est un défi pour moi maintenant parce que, ayant le rôle dans l'évangélisation, au niveau de l'Église universelle, et je pourrais aussi témoigner de mes contributions de ce qu'on pourrait partager avec les autres qui souffrent aussi beaucoup de conflits violents et de déchirements de communautés.
Vous avez dit que vous aimez l'Église, évidemment, l'Église vous aime aussi. Le 7 mai 2013, vous avez été nommé évêque de Kibungo et depuis le 19 novembre 2018, vous avez été nommé par le pape François comme archevêque de Kigali et maintenant vous êtes cardinal de l'Église universelle, donc au-delà de Kigali, du Rwanda. Est-ce que vous mesurez cette grandeur de cette charge, de la confiance que l'Église vous fait?
Oui, je remercie le Seigneur. Pour moi, toute la grâce du Seigneur qui fonctionne dans son Église. Et aujourd'hui, où l'Église a beaucoup de défis, on a beaucoup besoin de travailler pour faire comprendre et transmettre le message du salut. C'est une joie, mais aussi une grande charge et défi.
Si ma mémoire est bonne, est-ce que vous n'êtes pas, vous ne serez pas le premier cardinal de votre pays?
Oui, dans l'histoire du Rwanda, je suis le premier cardinal. Dans la région d'Afriac, donc le Rwanda, le Burundi et l'RDC, on avait cardinal de Kinshasa seulement. Mais maintenant, c'est une grande joie pour la région des Grands Lacs, pour l'Afriac, d'avoir deuxième cardinal.
Quel message vous pouvez donner à vos compatriotes d'abord du Rwanda pour cette joie d'avoir un premier cardinal et aussi pour cette région des Grands Lacs qui a besoin, comme vous l'avez dit, peut-être des grands messages de réconciliation, comme mot de la fin?
Je remercie beaucoup mes collègues, les évêques du Rwanda et de la FEAC, de la collaboration, la solidarité, le travail que nous faisons. Si le pape m'a nommé cardinal, c'est aussi grâce à toute la communauté. Je le dois aussi à la fois le travail et la pastorale de la communauté. Pour cette raison, je lui remercie beaucoup. Deuxièmement, je les assure de ma collaboration et solidarité, surtout pour la paix et la réconciliation dans la région. Nous vivons des temps de tension. Maintenant, c'est mélangé avec le COVID-19. Nous avons besoin, comme pasteur, de guider les gens dans la paix et la fraternité. Nous avons tout fratelli, c'est un secret qui va nous éclairer, nous aider beaucoup dans notre pastoral de réconciliation et de fraternité dans la région.
Monseigneur Antoine Kambanda, archevêque de Kigali au Rwanda, un des 13 prochains nouveaux cardinaux que le pape créera le 28 novembre prochain. Dans un message collectif publié le vendredi 23 octobre dernier, à l'issue de leur 125e session plénière, les évêques du Togo ont demandé au gouvernement de leur pays d'autoriser la reprise des cultes publics dans toutes les églises, conformément aux mesures prises contre la COVID-19. Les évêques togolais estiment que l'humanité devrait apprendre à vivre avec ce virus pendant un certain temps et ainsi autoriser aux fidèles de participer aux cultes de même qu'il y a une reprise progressive des activités dans tous les secteurs de la vie sociale, y compris les écoles, les services, les marchés, les hôtels et les restaurants. Rendons-nous au Bénin pour parler de la clôture de la session plénière ordinaire des évêques. Le récit avec notre correspondant local.
Les évêques du Bénin ont clos le mercredi 21 octobre 2020 au centre pastoral Monseigneur Nicolas Okio dans le diocèse de Natitingou. Les travaux de leur première session plénière ordinaire 2020-2021. Plusieurs sujets de préoccupation majeure et d'intérêt commun ont fait l'objet de leurs assises à en croire l'évêque d'Aboumé en charge des communications sociales au sein de la conférence épiscopale lors de la conférence de presse de clôture.
Le drame familial survenu à Boïkan dans le diocèse d'Aboumé et qui a abouti au décès tragique de 3 enfants dans le feu mis à leur maison. Les pluies diluviennes qui ont dévasté plusieurs localités de notre pays, notamment dans le département de l'Alibori. Des cas de suicides répétés, surtout au niveau de la jeunesse. La promotion insidieuse et l'introduction progressive de l'homosexualité et de l'orientation sexuelle comme droits humains dans les législations des pays de l'Organisation des États d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique. Les évêques du Bénin recommandent vivement que toutes les institutions impliquées dans l'organisation du scrutin jouent leur rôle dans l'esprit du consensus hérité de la conférence nationale de février 1990 afin que les prochaines élections présidentielles soient pacifiques, réellement inclusives et démocratiques.
Guy Dossuyovo, Cotonou pour Radio Vatican.
En République démocratique du Congo, la figure du Saint-Pape Jean-Paul II a été présentée comme modèle aux élèves du complexe scolaire Lac Albert dans le diocèse de Mahagnoka. Les détails dans ce reportage.
Le jeudi 22 octobre, c'était au calendrier liturgique la mémoire du Saint-Pape Jean-Paul II. Au diocèse de Mahagnoka, dans la province de l'Ituri, la figure du Saint-Pape a été présentée en modèle aux élèves du complexe scolaire Lac Albert, attaché à l'université Lac Albert. C'était l'ouverture de l'année scolaire 2020-2021. Monsieur l'abbé Jean-Claude Obegu, aumônier des institutions universitaires de Mahagi, a présidé une messe à l'Esprit Saint dans la cour intérieure de l'école. Il a invité les élèves et les enseignants à s'ouvrir à l'Esprit Saint pour que l'homme intérieur en chacun d'eux se développe dans l'amour de ce qu'ils sont et de ce qu'ils ont à faire durant la nouvelle année scolaire. Saint Jean-Paul II était un pape du dialogue, défenseur de la démocratie et ami des jeunes. Monsieur l'abbé Obegu a invité les jeunes élèves à se faire des amis du Saint-Pape pour leur vie spirituelle. Saint Jean-Paul II était aussi un homme de prière. Le prêtre aumônier a exhorté l'assemblée à regarder vers le ciel avant de regarder vers la terre. Et il faut s'ouvrir à l'Esprit Saint pour aimer. Le complexe scolaire Lac Albert organise des enseignements en hôtellerie, coupe-couture, commercial et gestion, pédagogie, mathématiques, physique et agronomie. Monsieur l'abbé Obegu a rappelé la devise de l'école, Dieu conscience, excellence différence, travail glorification. Jean-Baptiste Malenge Kalunzu pour Radio Vatican.
Dans quelques instants, l'actualité sociopolitique.
Ouvrons l'actualité sociopolitique africaine par la Côte d'Ivoire où, à moins d'une semaine de l'élection présidentielle, la police a dispersé lundi une manifestation de l'opposition contre la candidature controversée à un troisième mandat du président sortant Alassane Ouattara à Abengourou, principale ville de l'est du pays. Dimanche, ce sont quelques 35 000 membres des forces de l'ordre qui ont été déployés sur l'ensemble du territoire ivoirien pour sécuriser les opérations de l'élection présidentielle du 31 octobre prochain, émaillé par des violences meurtrières. Plusieurs dizaines de personnalités libyennes ont débuté lundi un dialogue politique par vidéoconférence sous l'égide de l'ONU, quelques jours après l'annonce d'un cessez-le-feu permanent dans ces pays. Toujours à propos de la Libye, l'Organisation internationale pour l'immigration a annoncé qu'au moins 11 migrants avaient péri dimanche dans le naufrage de leur bateau au large de la Libye. En République démocratique du Congo, un porte-parole de l'armée au sud Kivu a annoncé que les forces armées congolaises avaient délogé et récupéré le quartier général des rebelles burundais de Force nationale de libération dirigée par Aloïse Nzambamema. Le bilan de tous ces affrontements entre l'armée congolaise et des groupes rebelles burundais faisait état de 27 rebelles tués, plusieurs armes et munitions récupérées, 3 militaires de l'armée décédés et 4 autres blessés. Direction Nigeria, deux responsables d'une milice pro-gouvernementale ont déclaré lundi que des membres présumés du groupe djihadiste Boko Haram avaient tué dimanche 8 agriculteurs dans le nord-est du pays. Ces agriculteurs travaillaient dimanche dans leurs champs dans un village près de Maiduguri, la capitale de l'état du Borno, lorsque les assaillants les ont attaqués et leur ont traché la gorge.
Radio Vatican, France-Afrique, Jean-Pierre Bojoko.
Le ministère soudanais de l'irrigation a annoncé lundi que le Soudan, l'Égypte et l'Éthiopie avaient prévu une réunion ce mardi, réunion consacrée au barrage éthiopien sur le Nil, alors que les pourparlers sont au point mort depuis 3 mois. Le secrétaire du ministère angolais de l'Intérieur, Salvador Rodriguez, a annoncé dimanche qu'une centaine de personnes, dont des membres du principal parti d'opposition, l'Union nationale pour l'indépendance totale de l'Angola, UNITA, avaient été arrêtées et que 6 policiers avaient été blessés à la suite de violentes manifestations antigouvernementales ce week-end dans la capitale angolaise, Luanda. Le premier ministre algérien Abdelaziz Jerad a déploré dimanche le relâchement de la population dans le respect des mesures de prévention contre le nouveau coronavirus face à une nette recrudescence des infections quotidiennes. Samedi, la présidence algérienne avait annoncé que le président Abdelhamadjid Tebboune s'était mis volontairement à l'isolement pendant 5 jours après des cas suspects de coronavirus concernant plusieurs hauts responsables de la présidence et du gouvernement.
Vous écoutez Radio Vatican, c'est l'heure du magazine.
Armella Muimundu nous présente le magazine sur la santé.
La santé, un problème pour tous, un défi pour les sociétés et l'Église en Afrique.
Les progrès réalisés à l'échelle mondiale dans la lutte contre la tuberculose sont menacés. C'est de cela qu'il sera question dans notre magazine sur la santé aujourd'hui. Avant la pandémie de COVID-19, de nombreux pays enregistraient des progrès continus dans la lutte contre la tuberculose, avec notamment une baisse de 9% de l'incidence de la maladie entre 2015 et 2019 et une diminution de 14% des décès au cours de la même période. Les engagements politiques de haut niveau pris à l'échelle mondiale et nationale produisait des résultats. Toutefois, un nouveau rapport de l'Organisation mondiale de la santé, OMS, montre que l'accès aux services de lutte contre la tuberculose demeure un problème et que les objectifs mondiaux en matière de prévention et de traitement ne seront probablement pas atteints si des mesures urgentes ne sont pas prises et des investissements consentis. Environ 1,4 million de personnes sont décédées de maladies liées à la tuberculose en 2019. Sur les quelques 10 millions de personnes qui ont développé la tuberculose cette même année, environ 3 millions n'ont pas été diagnostiquées ou n'ont pas été officiellement déclarées aux autorités nationales. La situation est encore plus grave pour les personnes atteintes de tuberculose résistante aux médicaments. En 2019, environ 465 000 personnes ont été nouvellement diagnostiquées comme étant atteintes de cette forme pharmaco-résistante et parmi elles, moins de 40% ont pu avoir accès à un traitement. Des progrès limités ont également été réalisés en matière d'élargissement de l'accès au traitement aux fins de prévention de la tuberculose. L'accès équitable à un diagnostic, aux services de prévention, à un traitement et à des soins de qualité et en temps utile demeure un défi, a déclaré le docteur Tedros Adhanom Ghebreyesus, directeur général de l'OMS. Une action accélérée est nécessaire d'urgence à l'échelle mondiale pour atteindre nos objectifs d'ici 2022. Selon le rapport, environ 14 millions de personnes ont bénéficié d'un traitement contre la tuberculose au cours de la période 2018-2019, soit un peu plus d'un tiers de l'objectif fixé sur 5 ans, consistant à atteindre 40 millions de personnes. Quelques 6,3 millions de personnes ont commencé un traitement préventif contre la tuberculose en 2018-2019, ce qui représente environ un cinquième de la progression vers l'objectif sur 5 ans visant à traiter 30 millions de personnes. Le financement constitue un problème majeur. En 2020, le financement de la prévention, du diagnostic, du traitement et des soins de la tuberculose a atteint 6,5 milliards de dollars, ce qui ne représente que la moitié de l'objectif de 13 milliards de dollars convenu par les dirigeants mondiaux dans la Déclaration politique des Nations Unies sur la tuberculose. La perturbation des services provoquée par la pandémie de COVID-19 a entraîné de nouvelles difficultés. En effet, dans de nombreux pays, les ressources humaines et financières destinées à la lutte contre la tuberculose ont été réaffectées à la lutte contre la COVID-19. Cette situation a également eu des répercussions négatives sur les systèmes de collecte de données et de notification. Selon le nouveau rapport, les données recueillies auprès de plus de 200 pays ont montré une réduction significative des notifications de cas de tuberculose, avec une baisse de 25% à 30% dans trois pays à forte charge de morbidité, l'Inde, l'Indonésie et les Philippines, entre janvier et juin 2020, par rapport à la même période de 6 mois en 2019. Ces baisses de notification des cas pourrait entraîner une augmentation considérable du nombre de décès supplémentaires dus à la tuberculose selon les modélisations de l'OMS. Conformément aux orientations de l'OMS, les pays ont pris des mesures pour atténuer l'impact de la COVID-19 sur les services essentiels de lutte contre la tuberculose, notamment en renforçant la lutte contre l'infection. Au total, 108 pays, dont 21 pays où la charge de morbidité de la tuberculose est élevée, ont étendu l'utilisation des technologies numériques pour fournir des conseils et un soutien à distance. Afin de réduire la nécessité de se rendre dans les établissements de santé, de nombreux pays encouragent le traitement à domicile, les traitements administrés entièrement par voie orale aux personnes atteintes de tuberculose résistante aux médicaments, la fourniture de traitements préventifs préventif contre la tuberculose et la garantie que les personnes atteintes de tuberculose maintiennent un approvisionnement adéquat en médicaments. Un rapport de situation récent du secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies présente 10 mesures prioritaires à prendre par les États membres et les autres parties prenantes pour combler les lacunes en matière de soins, de financement et de recherche liées à la tuberculose, ainsi que pour faire progresser l'action multisectorielle et la responsabilisation, notamment dans le contexte de la pandémie de COVID-19.
Notre programme se poursuit avec la rubrique consacrée à la technologie. Marie-Josée Mwando, Boaboualo.
Commençons notre rubrique sur la technologie par le Royaume-Uni, où le navire de recherche polaire le plus avancé, Sir David Attenborough, effectue ses premiers essais techniques en mer. Avec sa technologie de pointe, les scientifiques étudient les changements dramatiques qui ont lieu dans les océans polaires. Dubaï a décidé de mettre en place un système de reconnaissance faciale dans les transports en commun à des fins de sécurité. Utilisée dans les aéroports ou dans la téléphonie mobile, la reconnaissance faciale est une technologie d'intelligence artificielle qui permet l'identification des personnes par la captation et l'enregistrement de la physionomie du visage. Ce système a montré son efficacité pour identifier les individus suspects ou recherchés, a expliqué l'amiral Obeid Al-Atbour, directeur du département de la sécurité des transports au sein de la police de Dubaï, lors d'une simulation d'attaque à main armée dans une fausse station de métro. Lors de la simulation organisée en présence du prince héritier de Dubaï, Sheikh Hamdan Ben Mohamed, une unité spéciale de police est intervenue et a interpellé les assaillants repérés grâce au système de reconnaissance faciale. L'équipe d'intervention est en contact avec un centre de contrôle qui relaye les informations et données collectées. Déjà utilisée par l'armée, la reconnaissance faciale est à son stade d'apprentissage automatique dans les transports publics et sera mise en place dans les prochains mois dans toutes les stations, a indiqué Jamal Ahmed Rached, responsable du dossier. D'autres technologies de pointe utilisées pour faire face à l'épidémie de COVID-19 vont être généralisées dans et autour des transports, à l'instar des casques et lunettes intelligents ou encore des drones. Plusieurs pays ont répandu l'usage de la reconnaissance faciale dans l'espace public, notamment la Chine ou Singapour. Experts et ONG mettent toutefois en avant des risques de violation de la vie privée et de surveillance de la population. En ce qui concerne la technologie dans le secteur sanitaire, les États-Unis d'Amérique ont approuvé un traitement aux anticorps de synthèse contre Ebola développé par la société de biotechnologie Regeneron et qui a montré avoir réduit de façon significative le taux de mortalité des malades. La même technologie est employée pour développer un traitement expérimental contre le coronavirus. Le traitement contre Ebola a été approuvé par l'Agence américaine des médicaments dont le chef Stephen Hahn a déclaré qu'il s'agissait d'une preuve de son engagement à répondre aux menaces sanitaires à la fois dans le pays et à l'étranger. Appelé Ilmazeb, le traitement est administré par intraveineuse et contient un cocktail d'anticorps monoclonaux. Ces anticorps, fabriqués en laboratoire, une fois injectés dans le corps d'un patient, fondent sur le virus pour le neutraliser, comme est censé le faire le système immunitaire. Les essais cliniques ont été réalisés sur 382 personnes, dont la moitié ont été traitées avec Ilmazeb et l'autre moitié ont reçu un autre médicament. Parmi celles ayant été traitées avec Ilmazeb, 33,8% sont décédés après 28 jours contre 51% des 153 patients de l'autre groupe. L'étude a été menée en République démocratique du Congo en 2018 et les résultats ont été publiés dans le New England Journal of Medicine en 2019. Les anticorps monoclonaux sont une catégorie de traitement assez nouvelle et sont plus communément utilisés pour traiter les cancers ou maladies inflammatoires.
Pour plus d'informations et de nouvelles, consultez notre site internet www.vaticannews.va.
C'est par ici que nous mettons un point final à notre programme. Aujourd'hui, au nom de toute l'équipe du service français Afrique de Radio Vatican, Jean-Pierre Bodjoko vous remercie de votre écoute et de votre fidélité. Le rendez-vous, c'est pour demain. Même heure, même fréquence, même radio.
Turaje kuguhoza imibabaro twaguteye.
Niwe ya gutoo.